Donc, bienvenue à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, j'ai cinq questions ici qui sont arrivées par écrit. Donc, je vais d'abord essayer d'y répondre. Et puis, nous prendrons les questions des personnes qui sont présentes en direct. La première question est de Cherab. Lorsque vous avez commenté la stance 1 du chapitre 8, vous avez expliqué qu'elle faisait référence à l'importance de l'étude. Cependant, le texte ne mentionne vraiment pas du tout l'étude. Il ne parle que de la paramita précédente, qui donne l'impression que la seule chose que le texte dit réellement est que les paramitas se succèdent en ordre croissant, comme vous l'avez déjà expliqué. Comment pouvons-nous alors savoir que le texte signifie en réalité quelque chose de différent, qui ne semble pas y être écrit du tout? Alors, Rinpoche rigole. Et puis, Rinpoche dit, ça fait pas, effectivement, ça fait pas partie de la stance elle-même. Et en fait, la stance 1, elle parle surtout de l'importance de la méditation, mais il faut se souvenir que il s'agit pas que de la méditation, parce que quand on dit ce genre de choses, alors les gens le comprennent en fait de travers en pensant qu'il n'y a que la méditation qui compte, et comme quoi l'étude ne serait pas importante. Et donc pour équilibrer ça, et on souligne que l'étude, elle a aussi son importance et que elle doit venir avant la méditation. Et que l'étude va donc apporter plus de clarté sur comment méditer. Et donc c'est pour ça qu'on le mentionne là. C'est pas seulement quelque chose que moi seul je mentionne. En fait, de façon générale, ça fait partie de la tradition de le mentionner. La plupart des commentaires, ils parlent également de l'étude à ce moment-là. Donc, notamment dans le commentaire les perles d'Ambroisie, c'est aussi mentionné. Et dans celui de Tomé Zangpo aussi, et la plupart des commentaires, c'est mentionné. Et en fait, c'est en quelque sorte une tradition. C'est pour souligner que l'étude et la méditation, elles doivent être menées conjointement. Et c'est conforme à la tradition de l'université de Nalanda, le fait que la méditation et l'étude doivent se mener main dans la main. Et c'est pourquoi je l'ai mentionné. Et puis la deuxième question, elle est de Linda. Et Linda, elle dit ceci, concernant l'amour et l'attachement, ainsi que la difficulté de les distinguer clairement, l'idée serait-elle que si l'on est dans une relation durable, on essaye d'observer attentivement les qualités de cette relation avec l'intention de discerner dans quelle mesure on agit par attachement et dans quelle mesure on agit par amour? Rinpoche dit oui, on peut aussi utiliser cette compréhension dans le contexte d'une relation ou dans le contexte d'une relation durable, bien sûr, ça peut s'appliquer là aussi. Mais en fait, la portée de ça est plus générale. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre, et je pense, dit Rinpoche, que c'est très important. Le fait de comprendre que L'amour, tout le monde a de l'amour. Et l'amour est une chose très importante, c'est une très bonne chose. C'est un aspect très important. Mais en tant qu'être samsarique, nous avons également, nous tous, beaucoup d'attachements. Et l'attachement, il introduit beaucoup d'émotions négatives, il nous amène à beaucoup d'émotions négatives, que ce soit le sentiment d'être blessé, les soucis, l'anxiété, l'inquiétude, la colère, la haine, trop de saisie, on s'accroche trop. Donc oui, l'attachement, c'est un peu, il emmène toutes ses émotions à sa suite. Et en fait, l'attachement, il est très préjudiciable à l'amour véritable. Il le tue la plupart du temps. Et donc, si nous pouvons essayer de comprendre, et bien sûr, on ne peut pas être totalement libre de toute forme d'attachement à notre niveau. C'est quelque chose qui est très difficile. Et en fait, c'est presque impossible pour nous, en tant que quand nous sommes dans cet état d'esprit samsarique, mais on peut essayer de comprendre, on peut au moins essayer de comprendre clairement. Et puis, d'après cette compréhension, nous essayons d'utiliser notre sagesse pour réagir. Je pense que ce serait très bien et que ça aiderait l'amour à se maintenir. Je pense que ce serait bon d'essayer de maintenir une sorte d'équilibre dans nos réactions. Et ça peut, c'est quelque chose qui peut devenir très important. Donc c'est ça l'idée. Et puis, la question suivante, elle est de Andrej. Alors, il dit la chose suivante. Concernant la concentration méditative évoquée à la stance 3, ce n'est pas l'attachement pour nos proches ou pour d'autres choses qui font qu'il est difficile de se détourner des préoccupations mondaines. Il me semble qu'il y a en nous une tendance, peut-être plus marquée en Occident qu'ailleurs, à trop faire confiance à la société pour ce qui est de réaliser des grandes choses, comme si de tels accomplissements ne pouvaient être atteints qu'au niveau du groupe. J'ai observé que ma méditation s'arrête souvent à cause de ma conviction que les grands accomplissements individuels, comme celui de Shantideva, du Bouddha Shakyamuni ou d'autres personnes, n'ont été possibles que grâce au travail et aux connaissances d'autres de leurs contemporains. Cette façon de penser perturbe le flux de la méditation. Je n'expliquerai pas en quoi, mais elle est à l'opposé de la confiance en soi. Il y a même une citation selon laquelle l'homme est un animal social. Sans vouloir dénigrer les animaux à cet égard, je trouve que cette tendance des humains freine le développement de la bodhicitta et de la méditation. Qu'en pensez-vous? J'ai lu un peu plus vite que Rinpoche, donc il finit de lire la question. En fait, les traducteurs, on reçoit les questions à l'avance, et donc je les traduis par écrit. Du coup, je vais un peu plus vite parfois que Rinpoche. Mais donc voilà. Voilà, il a fini de lire la question, donc il y répond maintenant. Donc il dit oui, bien sûr. L'influence de la société elle est également importante. Tout se produit, que ce soit en fait tout ce qui apparaît dans la société nous influence et nous affecte. Si il y a de grands êtres, de grands méditants, des êtres positifs, s'il y a des êtres plus positifs, ça nous aiderait, je pense. Ça pourrait même être très utile, très bénéfique. Et c'est vrai que et pas particulièrement en Occident. Ou particulièrement, c'est pas très clair. Il y a beaucoup de gens. En fait, les gens. Ou tout particulièrement en Occident, les gens, ils pensent que si les lois sont correctes, sont bonnes, si le système social est correct, etc., alors ce sera ça qui va. C'est ça qui va faire la différence. Et les gens, ils en sont presque en Occident à penser que c'est ça qui va déterminer comment ils sont. Comment le pays ou le monde va fonctionner, ça dépend quasi exclusivement du système social et des lois. Et bien sûr que ça joue. Mais en même temps, pour ce qui concerne la méditation, bien que tout ait une influence, en fait, fondamentalement, il y a quelque chose qui dépend de nous, en fait. La méditation, ça dépend de nous. Même si vous étiez entouré de beaucoup de grands méditants, à moins que que je fasse cette méditation moi-même, ma méditation ne va pas se produire juste parce que il y a plein de bons méditants autour de moi. Juste parce que j'ai de bons enseignants ou parce que j'ai de bons amis. Parce que je suis entouré de bons pratiquants du dharma, ça va pas suffire à faire en sorte que ma méditation se développe. C'est moi qui dois la mener à bien. Donc pour ce qui est de la méditation, en fait, ça a beaucoup à voir avec moi-même, en fait. Si je travaille et si je comprends comment faire la méditation, et si je la fais, si je m'y applique, si je la fais bien, même alors si les circonstances sont très mauvaises, très défavorables, je pense que nous pouvons méditer. Et parfois même, si je suis un très bon pratiquant, les mauvaises circonstances pourrait même aider à améliorer et à oui à améliorer ma pratique. Donc ça n'est pas totalement dépendant des situations extérieures. Bien sûr, les deux sont importants. Et on ne peut pas sous-estimer et c'est pourquoi on parle de trouver le bon enseignant pourquoi on parle de trouver une bonne sangha et toutes ces choses donc toutes ces choses extérieures, elles ont leur importance, mais fondamentalement, c'est de nous qu'il s'agit. Donc je pense que c'est important. Et puis, la question suivante est de Max. Donc ce que dit Max dit la chose suivante. Le mantra Om Mani Padme Hum est dit être le roi des mantras et l'essence de tous les dharmas. J'ai lu un livre de son éminence Thaisithu Rinpoche, dans lequel Rinpoche écrivait que même si l'on ne pouvait rien pratiquer d'autre que la récitation de ce mantra, on atteindrait l'éveil. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer la signification de ce mantra, comment le pratiquer et quels sont les bénéfices de sa récitation? J'aime réciter quelques-uns de ces mantras, quelques mantras de ce mantra de temps en temps, et je trouve cela d'un grand bénéfice. Donc, Rinpoche répond. Quand on dit que toute la pratique du dharma est incluse dans le mantra des six syllabes, je pense que ce qu'on veut dire, ça ne parle pas que de sa récitation. En fait, elle est incluse, quand on dit qu'elle est incluse, elle est incluse pas dans la récitation, mais dans tout l'enseignement qui est associé au mantra, dans la pratique qui est associée au mantra, et d'une façon profonde. Si vous arrivez à utiliser cela, alors bien sûr que tout y sera inclus. C'est ça qu'on veut dire. Donc ça, c'était le premier point. Et Rinpoche dit, en fait, ça, c'est pas quelque chose qui n'est dit que par Sithu Rinpoche. C'est dit aussi par le Bouddha, c'est dit dans beaucoup de sutras et de tantras. Parce que, c'est une pratique de sagesse et de compassion, pratiquée ensemble, en union. Et en fait, tout le chemin du Bouddha Dharma, c'est la pratique de la sagesse et de la compassion. Donc, si vous voulez comprendre la signification complète de tout cela, alors vous pouvez lire cela. J'ai déjà enseigné ça, mais il y a aussi un très bon ouvrage par Dilgo Khyentse Rinpoche, qui est le commentaire du texte court par Patrul Rinpoche de la pratique de Om Mani Padme Hum en lien avec toutes sortes d'enseignements de tout niveau. Alors là, il a donné le titre en tibétain, mais j'ai pas compris. Et en anglais, c'est bon au début, bon au milieu et bon à la fin. Et je pense que vous connaissez le sens du mantra. En fait, la première. Donc, c'est censé être un mantra qui est très béni. Bien sûr, tous les mantras sont très bénis. Il est dit que, une fois, il est dit que lorsqu'on en a atteint un certain niveau spirituel, entre guillemets, de développement spirituel, alors vous pouvez bénir n'importe quelle chose. Et ce son, il aura la pleine, tout le pouvoir que cette personne qui l'a béni avait. Donc les mantras sont censés avoir cette propriété. Donc ils ont la même énergie ou la même puissance que le grand Bodhisattva ou le Bouddha qui bénit ce mantra. Donc Om Mani Padmé Hum, c'est le mantra d'Avalokiteshvara, mais il est censé avoir la bénédiction de tous les Bouddhas. Donc ça, c'est une chose, la bénédiction, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est la signification. D'abord, c'est le nom d'Avalokiteshvara, mais Om Mani Padmé Hum, Om, comme vous le savez, c'est en fait, on dit que tous les sons commencent par Om. C'est un peu la syllabe primordiale. Donc Om, c'est trois lettres ensemble, O, A et Ma. Et ensuite, Mani, ça signifie le joyau. Padmé, ça signifie le lotus. Donc Mani Padmé, c'est le joyau dans le lotus. Donc Mani, ça représente la compassion, parce que la compassion, elle est vue comme un joyau qui exauce tous les souhaits. C'est-à-dire que c'est un joyau que lorsqu'on l'a, tous nos souhaits, nos aspirations sont comblées, et aussi les aspirations et les souhaits des autres. Et donc la compassion, elle est comparée à ça, à un joyau qui exauce tous les souhaits. Parce que c'est la compassion, lorsqu'on en dispose, c'est ce qu'on peut avoir de mieux pour nous-mêmes et aussi de mieux pour les autres. C'est pour ça qu'on la compare au joyau qui exauce tous les souhaits. Le Padma, c'est la fleur de lotus. Donc le lotus, il est considéré comme le symbole de la pureté complète. C'est quelque chose qui ne peut pas, il représente quelque chose qui ne peut pas être infecté, dans le sens où une fleur de lotus, quel que soit le degré de pollution de l'endroit où elle pousse, cette fleur, elle sera toujours totalement blanche. Elle ne sera pas du tout souillée par son environnement. Et donc Padma, le lotus, ça représente la pureté, la sagesse, parce que une fois qu'on a la sagesse, rien ne peut venir la polluer, rien ne peut venir la souiller. Donc Mani Padma, c'est le joyau dans le lotus. C'est les deux, donc la sagesse et la compassion en union. Hung, c'est aussi une syllabe très importante qui représente aussi le cœur, mais elle veut aussi dire je suis. Donc elle veut dire que, en fait, c'est quand on dit je, c'est ma propre nature, et ma propre nature, elle est Mani Padmé ensemble, donc le joyau et et le lotus ensemble. Et donc c'est ça qu'il nous faut découvrir, c'est ça qu'il nous faut expérimenter, c'est ça qu'on doit essayer de vivre, le fait que notre propre nature, elle est lotus et joyau en union, et c'est ça la pratique du dharma. Et donc ces syllabes, elles sont très expressives. Et donc il est aussi dit que ce mantra, il est très facile à apprendre. Y a personne qui ne pourrait pas l'apprendre. Mais si vous en comprenez le sens et si vous le pratiquez, il est dit que donc d'abord il est facile à apprendre. Ça ne demande presque aucun effort de l'apprendre. Et on a très peu de soucis à se faire quant au risque qu'on aurait de l'oublier. Et on ne peut pas non plus développer beaucoup d'orgueil parce qu'on l'a appris. Et ces trois éléments font de ce mantra une très bonne pratique. Parfois, les gens présentent les choses ainsi. Donc, vous pouvez lire beaucoup de choses à ce sujet beaucoup de livres. Et donc la deuxième question de Max, c'est: pourriez-vous, s'il vous plaît, parler de la terre pure de Sukhavati, des Wachen en tibétain, de ce qu'il convient de faire pour y reprendre naissance, notamment concernant les quatre causes pour renaître en des Wachen. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer qui est le Bouddha Amitabha et pourquoi il est appelé le Bouddha de lumière infinie? Donc ça a été dit, on a déjà beaucoup expliqué auparavant, dit Rinpoche. Quand on parle de la terre pure de Sukhavati, en fait, on dit que d'après le sutra du Bouddha Amitabha, comment dire, c'est l'un des royaumes, c'est l'un des champs purs de Bouddha. Du point de vue bouddhiste, on parle de, il existe beaucoup de formes de vie différentes. De façon générale, on dit que tous les êtres sensibles peuvent être divisés en deux catégories, les êtres samsariques et les êtres éveillés. Ceux qui sont samsariques, ils peuvent prendre vie sous beaucoup de formes différentes. En général, on parle des six modes d'existence, des six royaumes, ce genre de choses. Et puis, les êtres qui sont dans l'état éveillé, on parle des dix terres, des cinq chemins, etc. Et il y en a tellement, des types d'êtres et des formes de vie, mais fondamentalement, en raison de la façon dont notre esprit est, c'est ça qui conditionne comment on prend naissance. Et donc des terres pures, il y en a aussi de beaucoup de types différents, de beaucoup de niveaux différents, des royaumes de Bouddha aussi. Et donc le royaume du Bouddha Amitabha, il est d'un niveau de très élevé de terre de Bouddha, et en même temps il est facile d'y reprendre naissance en raison des aspirations du Bouddha Amitabha. Et donc pour ce qui est des quatre causes pour reprendre naissance dans ce royaume, il faut prier de façon très fervente et assidue pour y reprendre naissance. Il faut penser au Bouddha Amitabha sans cesse. Faut développer la bodhicitta et ne pas oublier la bodhicitta. Donc développer la bodhicitta, et puis il faut faire des actions positives sans cesse. Et donc si vous faites ces quatre choses, alors vous avez l'assurance de reprendre naissance dans le royaume du Bouddha Amitabha, dans une fleur de lotus. Et donc dès que vous êtes né, la fleur de lotus s'ouvre et vous êtes là devant le Bouddha Amitabha, et alors vous pouvez écouter ses enseignements. Et vous avez tous les pouvoirs miraculeux, tout ce que vous souhaitez se produit. Et si vous voulez vous rendre dans un autre champ de Bouddha pour recevoir d'autres enseignements, vous le faites le souhait et vous y êtes transporté immédiatement. Et puis, vous pouvez aussi voir le monde en dessous de vous, comme notre monde. Et si certains de vos amis, de vos proches, de vos collègues, ou votre enseignant, ou vos étudiants ont des difficultés, vous pouvez aller l'aider. Et puis, si vous voulez pour un moment prendre une forme humaine ou une autre naissance pour aider les êtres, vous pouvez le faire ça pour une ou deux existences. Et puis vous pouvez revenir ensuite dans le royaume d'Amitabha. Donc ça sonne vraiment bien, hein, ça sonne vraiment super bien. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des questions en direct? On n'entend pas pour l'instant la personne. Ah, le son, on l'entend, mais c'est pas très bon le son en fait. Dreampoochie dit que la vidéo est gelée, mais j'ai pas pu vous entendre. Ah voilà, il demande si on peut l'entendre, et oui, en effet, maintenant on peut l'entendre. Donc ça y est, on l'entend. Donc nous, on peut entendre la personne qui pose la question, mais la personne ne peut pas nous entendre. Et Rinpoche demande à la personne de dire sa question, puisque nous, on peut l'entendre, mais comme la personne n'entend pas que Rinpoche lui dit ça, bah, elle ne dit pas sa question. On est un peu bloqué. Donc, la personne va se déconnecter. Donc on va probablement passer à une autre question. Rinpoche demande si la personne peut l'entendre. Donc on a une question de Dirk. Ah voilà. Donc là, la liaison est établie. Donc Dirk va pouvoir poser sa question. Donc la question de Dirk. Merci beaucoup pour vos enseignements éclairants. J'ai écouté quand vous avez parlé de Laktung et Vipassana. Je veux dire Shamatha et Vipassana. Si je médite, j'aime vraiment faire la méditation de Shamatha et mon esprit peut se calmer et j'arrive à voir mes six consciences sans être distrait. Sans rendre les choses plus réelles qu'elles ne sont et sans faire des élaborations. Et après un moment, je vois mes habitudes, je vois mes tendances, mes prédispositions. Et donc, j'arrive à méditer en voyant les humeurs sans m'y attacher. Si je médite et que je me repose sur cela, donc de regarder mes tendances, est-ce que cela, cette façon de méditer, purifie les afflictions ou est-ce que ça n'est pas suffisant? Donc Rinpoche répond. Je pense que le point principal, je pense que le problème principal, que la source de notre souffrance, ce sont les kleshas, donc les émotions négatives. Donc, quand notre esprit devient un peu plus calme et quand nous pouvons voir ce qui s'y passe, si nous arrivons à faire en sorte que les émotions, les réactions, puissent, si on arrive à les, quelque part, les laisser se manifester et les laisser s'en aller sans les accro sans s'y accrocher et sans y réagir, je pense que ça, c'est un très bon entraînement à laisser nos émotions s'en aller. Il ne s'agit pas de savoir, c'est pas le problème qu'on ressente les émotions ou pas. La vraie question, c'est, ou en tout cas, le point important, c'est, comment dire, de les laisser suivre leur chemin, de ne pas rester coincé au moment où elles apparaissent ou au moment où elles disparaissent. Ouais, de ne pas se laisser piéger par l'émotion. Il faudrait pas qu'on soit dans un état où on n'arrive pas à les laisser s'en aller. Donc ça veut dire que... Donc là, il ne s'agit pas que de shamatha, en fait. C'est aussi du niveau de vipassana, parce que ça veut dire que on peut voir la nature de nos émotions et de nos pensées. Et alors ça marche. Et alors ça peut fonctionner. Et alors, ça peut changer notre façon usuelle et habituelle de réagir. Et donc je pense que c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup Rinpoche, dit Dirk. Donc, est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant, Steve? Et Steve. Donc voilà, maintenant on arrive à entendre. C'est très agréable de vous voir, dit Steve, et Rinpoche dit c'est agréable aussi. J'ai une question sur la méditation de Shamatha orientée sur le sujet ou sur l'objet. Myingyur Rinpoche disait que c'était plus facile de comprendre la vacuité quand on fait Shamatha orienté vers le sujet. Est-ce que c'est parce que ça met l'objet plus à distance? Est-ce que c'est pour ça que ça rend le fait, la compréhension de la vacuité plus facile lorsqu'on fait la méditation de shamatha orientée vers le sujet? Donc Rinpoche rit légèrement et il dit. Je ne sais pas comment vous appelez les choses, mais est-ce que shamatha orienté vers l'objet, c'est quand vous regardez quelque chose? Quand vous regardez quelque chose et alors vous vous focalisez sur cette chose que vous regardez? Et ça devient du coup votre méthode de méditation. Je pense que... Orienté vers le sujet, ça veut dire vous regardez l'esprit, c'est ça? Et donc la personne répond oui, c'est plus quand on regarde la conscience elle-même. En fait, dit Rinpoche, c'est pas qu'on prend du recul, c'est qu'on se rapproche parce que on regarde directement son esprit, sa conscience. Et Rinpoche dit, ça pourrait vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est exactement ce que vous êtes, qu'est-ce que c'est exactement que l'esprit, comment il fonctionne, comment il expérimente les choses. Donc, quand on parle de vacuité, là, on ne parle pas de vacuité de manière conceptuelle. On ne parle pas de vacuité de façon... En fait, quand on en parle de manière analytique, alors c'est très conceptuel. On dit, c'est pas comme ceci, c'est pas comme cela, ça devrait être comme ceci, comme cela. En fait, cette connaissance analytique et conceptuelle de la vacuité, elle est importante, parce que c'est du niveau de la vue, mais ça reste un concept. Mais quand vous méditez, Ça s'est un peu coupé la connexion. Ça y est, on retrouve Rinpoche. Vous avez disparu pour un moment, mais vous êtes de retour, dit la personne. Moi, je suis de retour, mais vous, vous n'êtes pas encore de retour. Ça y est, je peux vous voir, dit Rinpoche. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Eh oui. Donc, Rinpoche dit. Quand vous méditez, peut-être que vous n'allez pas vous dire que c'est la vacuité, mais en fait, vous en faites une expérience de cette vacuité, parce qu'il n'y a rien à quoi on puisse s'accrocher. Donc, c'est de là que peut venir, c'est à ce moment-là, dans ce contexte-là, que peut émerger une compréhension véritable de la vacuité, si vous savez comment demeurer de façon correcte. Je pense que c'est cela qu'il voulait dire. Donc la personne dit, dans les situations plus compliquées, j'ai beaucoup de mal à être attentif parce qu'il y a beaucoup de choses à quoi penser. Mais est-ce que quand on arrive à être plus dans sa conscience, est-ce que ça veut dire qu'on est moins impliqué? Et Rinpoche dit, quand on parle de l'analyse, alors on parle davantage quelle que soit la profondeur de l'analyse, en fait, elle demeure une activité intellectuelle. Cette compréhension intellectuelle, elle est importante. Elle est très importante parce que elle constitue la fondation, le fondement de notre attitude, de nos réactions. Et à ce titre, cette compréhension, elle est très importante. Néanmoins, cette compréhension n'est pas de l'expérience. Et donc, quand on essaye de méditer, en fait, on aborde les choses sous un angle complètement différent. C'est une approche complètement différente, puisqu'il ne s'agit que, entre guillemets, d'être. Tous ces concepts. Vous ne vous en occupez pas, en fait, au moment où vous êtes en train de méditer. Vous n'y pensez pas. Vous ne faites que être conscient pleinement de ce moment de conscience, puis de ce moment de conscience, et vous apprenez à vous détendre dans cela. Et à travers cela, en particulier si vous avez une compréhension plus profonde de l'analyse, alors, quand vous vivez cette expérience où vous ne faites que être, il est possible qu'à un moment vous disiez, ah, c'était de ça qu'on parlait en fait. C'était de ça qu'on parlait quand on analysait et quand on discutait, ce genre de choses. Donc je pense que c'est ça l'idée en fait. Cette voie de la méditation, en fait, elle doit être, lorsqu'on pratique la méditation, extrêmement simple. Il faut même pas se dire, est-ce que je vais trouver la vacuité ou pas, ce genre de choses. Il s'agit vraiment que d'être. Ok, merci beaucoup, dit Steve. Est-ce que je peux poser une autre question? Est-ce qu'il y a le temps? Je voulais vous demander. Concernant les limites et les frontières, j'ai demandé beaucoup de fois à Kung Rinpoche, mais il n'a jamais trop répondu. Et on n'en parle pas trop dans le bouddhisme tibétain. Qu'est-ce que vous entendez par des frontières? À un niveau, ça pourrait vouloir dire. Si quelqu'un profite de vous, alors vous pourriez dire non, ça suffit. Je ne veux pas aller plus loin dans ce sens. Donc à un niveau, ça pourrait être comme ça. Le fait de comprendre que moi je suis là et que l'autre personne, elle est là-bas, et de pas se perdre complètement dans ce que les gens pensent de nous, etc. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par frontière? Je pense, dit Rinpoche. En fait, dans la psychologie occidentale, on en parle beaucoup, mais pas tant dans le bouddhisme. J'ai jamais vu ça très abordé. Et aussi, est-ce qu'il y a des différences entre le Hinayana, le Mahayana et le Vajrayana sur cette question des frontières? Je ne sais pas si c'est une bonne question ou pas. Mais est-ce que vous pourriez me donner des éléments, peut-être? Et donc Rinpoche dit, il n'est pas trop question de distinguer les différents véhicules ici. En fait, c'est des situations très mondaines. Dans le bouddhisme, on pourrait le voir comme une question qui ne serait même pas une question de dharma, mais plutôt une question pratique, une question de vie, en fait. Donc si quelqu'un vous demande j'ai pas, de faire quelque chose, et si vous êtes heureux de le faire, alors vous le faites. Et si vous n'êtes pas heureux de le faire, ou si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez dire je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Oui, c'est ça une limite. Ce genre de choses. Mais c'est quelque chose, dit Rinpoche, que chacun doit décider pour lui-même. Donc si vous voulez être bon, compatissant, est-ce que vous voulez être bénéfique, utile? En fait, le fait qu'on veuille être tout ça, le fait qu'on veuille être bon, compatissant, bénéfique, utile, ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout ce que les autres veulent qu'on fasse. Parce que de toute façon, ce n'est pas possible. Et puis aussi, vous devez comprendre que les gens, si vous faites, en fait, plus vous en faites, plus les gens vont vous en demander. En fait, les gens, quand vous allez aider, en général, les gens, ils vont pas s'arrêter de demander. Il y a peut-être des gens qui vont s'arrêter de demander quand vous aurez aidé, mais il y a peut-être d'autres gens qui vont continuer, en fait, se sentir encouragés à demander par le fait que vous ayez aidé. Donc, vous devriez pas. Le fait que quelqu'un veuille profiter de vous, ça ne devrait pas vous rendre malheureux, bouleversé ou quoi que ce soit, parce que ça arrive tout le temps. Les gens, c'est ça qu'ils veulent faire. Donc, ça ne devrait pas vous déstabiliser le fait qu'ils veuillent le faire. Je pense que c'est quelque chose que oui, je dois comprendre. Le fait que oui, il y a des gens qui vont vouloir profiter de moi. Et ensuite, la question de à quel degré, à quel point je les autorise à le faire, ça m'appartient. Ça dépend de moi. Si je pense que ceci est d'accord, que oui, ça va les aider de profiter un peu de moi, même si ils n'arrivent pas à me témoigner de la gratitude. Bon, si ça les aide, eh ben, je peux me dire d'accord, je vais autoriser cela. Mais je dois comprendre que oui, ok, ils profitent de moi, et jusque pour le moment, je suis d'accord avec ça. Mais s'ils le font et que vous pensez que ça n'est pas bien, que ce n'est pas bon, ou que en fait vous n'avez pas envie de donner autant que ce qu'on vous demande, autant de temps, autant d'énergie, parce que j'ai d'autres choses à faire, alors vous pouvez dire non, il n'y a rien de mal à dire non en fait. Je n'ai pas besoin pour autant d'être bouleversé. Je n'ai pas besoin pour autant d'être en colère, je n'ai pas besoin pour autant d'être mal poli, mais ça ne m'empêche en rien de dire non, de ne pas faire ces choses. Bien sûr, dit Rinpoche, parfois, les gens, ils vont essayer de vous forcer la main. Il y a plein de fois où des gens avec du pouvoir, ils vont prendre des choses de vous sans vous demander, comme si en quelque sorte des dictateurs vous imposaient des choses. Eux, vous aimeriez avoir des limites, mais eux, ils n'auront pas de limites. Ça arrive dans beaucoup de pays. Donc, pour ces choses-là, bah, vous faites de votre mieux. Et c'est important. En fait, parfois, on devient très déstabilisé, bouleversé, en colère, désespéré. Et en fait, c'est important. En fait, le point principal, c'est de vous protéger vous-même. Et quand vous voulez vous protéger vous-même, le fait de d'avoir trop de colère, trop d'émotions, d'être trop déstabilisé, les gens, ils pensent que ça les protège. Mais en fait, l'excès d'émotions, l'excès de colère, ça, non, ça les protège pas, ça les déstabilise, ça les détruit, ça nuit à leur santé. Donc, je dois faire ce que je peux pour améliorer les choses ou pour empêcher ces choses de se produire. Mais si je ne peux pas, alors je dois apprendre comment faire face à ces problèmes du mieux possible. Du mieux possible, de sorte que ça ne soit mauvais ni pour moi ni pour les gens autour de moi, d'une manière apaisée, sans succomber trop à la haine, à la tristesse, au désespoir, à ce genre de choses. Avec du courage, avec un peu d'optimisme, en essayant autant que possible de rendre les choses aussi bonnes que possible, etc. Parce que il y a beaucoup de gens dans le monde qui font face, qui sont confrontés à ce genre de circonstances et qui doivent traverser tant de problèmes à cause des atrocités, à cause de toutes sortes d'injustices et toutes sortes de choses. Mais donc c'est très difficile. Mais justement, ça veut dire que le moment est venu de trouver une manière de vous gérer vous-même, dans ce genre de situation. Et c'est l'une des choses les plus importantes concernant le dharma. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Demande encore la personne. Oui, dit Rinpoche. Il pourrait y avoir une troisième option. Une, c'est essayer de changer. L'autre, c'est d'accepter. Et puis, une troisième option pourrait être de quitter la situation, peut-être. Oui. On essaie de changer la situation autant que possible. Et aussi de changer nos réactions par rapport à cette situation, changer nos propres réactions par rapport à cette situation, de maintenir une réaction positive et bonne par rapport à cette situation. Ça, c'est des choses qui doivent aller ensemble, qui doivent être menées conjointement. Ok, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Et merci, dit Rinpoche. Donc la question suivante, Ali. Bonjour Rinpoche. Je vous parle du Maine et merci beaucoup pour cette opportunité. J'ai une question concernant le moment où on fait une pratique formelle. À la fin, quand on fait la dissolution, soit on fait la dissolution simple, ou alors on fait les initiations avec les lumières. Moi, Si j'ai de la chance, je peux rester assise un certain temps avant que la distraction arrive. Et ma question, c'est quand on est assis dans cet état non conceptuel et qu'on reconnaît la distraction, est-ce qu'on doit utiliser des instructions du Mahamudra pour regarder à notre esprit distrait, quelle que soit la distraction, et de revenir à cet état de repos? Ou est-ce que on doit juste se reposer et puis passer ensuite à autre chose? Est-ce que vous pouvez répéter la question parce qu'il y a eu des perturbations? Alors, bon, je vais écouter la question et s'il y a des éléments nouveaux par rapport à ce que j'ai traduit, je vais les traduire, mais sinon je ne vais pas la retraduire. En fait, oui, c'est vraiment comment on réagit lorsque la distraction arrive, alors qu'on est dans l'état naturel de l'esprit. C'est ça la question. Et Rinpoche dit oui, bah, c'est le moment pour le Mahamudra après la dissolution. Quand vous laissez votre esprit se reposer dans l'état naturel, c'est comme ça qu'on le dit d'habituellement, mais ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire la méditation du Mahamudra à ce moment-là. Donc, c'est pas juste de dire dès que vous commencez à avoir une distraction ou dès qu'il y a quelque chose qui se manifestait, il faut arrêter et passer à autre chose. C'est pas nécessairement comme ça. En fait, c'est le moment, c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser toutes les instructions et toutes les pratiques du Mahamudra que vous connaissez. Et vous pouvez faire cela pour aussi longtemps que vous avez du temps. À ce moment-là, vous ne visualisez plus quoi que ce soit. Vous ne récitez plus des mantras. Vous laissez votre esprit demeurer dans son état détendu et dans son état naturel. Et quelle que soit la compréhension ou l'expérience que vous avez de comment on regarde la nature de l'esprit, et ben vous faites ça à ce moment-là. Mais en fait, tout dépend du temps dont vous disposez, etc. Mais quand vous voulez vous arrêter, si vous étiez dans une sadhana, par exemple, vous vous manifestez comme la déité de nouveau si vous pratiquez une déité. Et puis vous commencez ce qu'on appelle. Comment déjà dire Rinpoche? C'est la post-méditation. C'est ça, c'est les instructions pour l'intercession, la post-méditation. En fait, vous savez, il y a deux méditations. Il y a une méditation. C'est quel terme qui est utilisé de Mandrin Poche? En fait, il y a vraiment ces deux termes. Il y a pendant la session et pendant les intercessions. Et pendant les intercessions, c'est la post-méditation. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça que j'ai. Alors vous commencez la post-méditation des Rinpoche. Donc la post-méditation, c'est en fait, c'est quoi? C'est la vie quotidienne. C'est quand on retourne à notre vie quotidienne. Donc vous faites ce que vous faites d'habitude. Donc vous pouvez vous laver, vous pouvez faire la cuisine, vous pouvez conduire, travailler, peu importe. Et en fait, on appelle ça la post-méditation parce que on prend l'expérience qu'on a eue en méditation et on la transporte, on la transpose à cette partie de notre vie. On utilise notre pratique dans notre vie quotidienne. On intègre notre pratique dans la vie quotidienne. Quelle que soit la pratique qu'on apprend, on l'intègre dans notre quotidien. Et en fait, ça, des deux méditations, c'est la plus importante. La méditation la plus importante, c'est la post-méditation. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas être tout le temps conscient de tout ce qui se passe, mais vous pouvez essayer de transporter dans votre vie quotidienne un peu de présence, un peu de conscience, un peu d'attention, un peu de bonté, un peu de compassion, un peu de compréhension. De l'impermanence, de la vacuité, tout ce genre de choses, vous pouvez en être un peu conscient. Donc ça, c'est la post-méditation, d'accord? Merci. On dirait que mon esprit, c'est une balle de ping-pong qui tape entre deux états où il est soit tranquille, soit en mouvement et qui essaie de revenir à la tranquillité. Et merci beaucoup. Et merci, dit Rinpoché. Quand votre esprit est au repos, quand vous êtes au repos, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de manifestation, ça c'est pas possible, parce que la nature de notre esprit est de se manifester. Donc l'esprit ne peut pas être sans manifestation. Il y a toujours des pensées, toujours des émotions. Mais il faut apprendre à faire en sorte que toutes ces choses ne vous perturbent pas. Vous pouvez, par exemple, entendre beaucoup de choses et c'est pas de problème, ça ne perturbe pas votre esprit. Votre esprit reste calme et clair, même si vous entendez plein de choses, même si vous voyez plein de choses, même si plein de choses se passent autour de vous, vous pouvez rester détendu, tranquille. Ça veut dire ça, apprendre à méditer. Et merci, dit la personne. Merci, dit Rinpoché. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, on en a quelques-unes encore, peut-être trop. Peut-être que ces personnes pourraient poser ces questions par écrit. D'accord, dit Rinpoché. Donc, merci beaucoup, dit Rinpoché. Et je vous adresse mes meilleurs souhaits et peut-être à demain. Merci.